Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ancora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Xhaka all'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet! Tony! Trezeguet! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco! Tiro! Gol! Gol! Grosso! Grosso! Gol! Gol di Grosso! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 23 du podcast Calcio et Pépé, un épisode spécial Mercato, on vous l'avait promis depuis quelques semaines. Après le bilan de la mi-saison qu'on a fait la semaine dernière avec Stanislas Touchot de l'AFP qui est présent à Rome, on fait un podcast 100% Mercato aujourd'hui. Avec moi comme chaque semaine, Guillaume Maillard-Passini, salut Guillaume.
Salut Johan, salut à tout le monde.
Alors Guillaume, on va essayer d'organiser un peu le podcast de manière claire pour oui. Ne pas perdre nos auditeurs. On va d'abord parler des transferts qui sont déjà faits, qui ont été réalisés là ces premiers jours de mercato. Il y en a quelques-uns, mais pour l'instant ça a un peu de mal à démarrer.
Ouais,
c'est encore assez calme en Italie. Et ensuite, on fera un peu tout ce qui est évoqué par la presse italienne ces derniers jours, ces dernières heures, avec les dossiers évidemment les plus importants. En triant par poste, donc on va d'abord parler des gardiens, ça sera assez rapide, ensuite des défenseurs, des milieux et des attaquants. Je te propose donc de commencer par les transferts déjà effectués depuis l'ouverture du mercato. Alors le premier, il avait déjà été annoncé cet automne et donc ça a été une simple confirmation à l'ouverture du mercato, c'est Paqueta qui a rejoint Milan contre un chèque de 35 millions d'euros.
Oui.
Et qui a joué son premier match de Coupe d'Italie avec l'AC Milan. C'était hier, puisque nous enregistrons ce podcast dimanche après-midi. Et donc hier, il y a eu la victoire de Milan sur le terrain de la Sampdoria, 2-0 en Coupe d'Italie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur et sa première sortie?
Écoute, moi, de ce que j'en tire, de ce que j'ai vu, c'est un joueur de football. C'est un joueur qui, comme on dit un peu vulgairement, pue le football. Il a du ballon, voilà, tu sens quand même que ça... c'est un joueur qui aime bien les dribbles, c'est un joueur qui... Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ses premières touches. Il a accéléré le jeu du Milan vers l'avant, il a verticalisé. Voilà, il a joué beaucoup une touche, ce qui est un peu rare en ce moment à Milan. Du coup, voilà, ça apporte un peu de vitesse à la manœuvre. Après, moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus en deuxième mi-temps, comme il a fait la première. C'était dans un 4-3-3. Du coup, il était placé au milieu. Et c'est vrai que bon, Gattuso, on sait qu'il est très focalisé aussi sur les devoirs défensifs. Et c'est vrai que Paqueta, voilà, en première mi-temps, était un peu contracté. En deuxième, j'ai trouvé un peu plus vers l'avant. Il a notamment fait une belle frappe en fin de match. Voilà, moi, ce que j'ai envie de voir, et je l'ai mis sur Twitter, j'ai envie de voir un joueur aussi qui a de la liberté. J'ai pas envie que Gattuso non plus l'oppresse avec les tâches défensives. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de s'exprimer, qui a du potentiel. Il y a un énorme potentiel. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de le voir, tu vois, dans le cœur du jeu, vraiment libre. Évidemment que, comme tout le monde, il a ses devoirs à faire. C'est pas non plus un mec exonéré de tout, mais j'ai vraiment envie de voir, voilà, en pleine possession de ses libertés, qui rôde aussi, qui a une liberté de mouvement. Pas qu'il soit, voilà, mis un peu comme j'ai mis sur Twitter, un peu dans une bouteille où il est un peu contracté, il est serré, il ose pas. On a vu ça avec Çalhanoğlu qui est encore, voilà, et même s'il a fait un bon match, il est un peu contracté.
Bah, c'est un joueur assez créatif, fin voilà. Dribbleur, donc.
Il lui faut des libertés. Il lui faut des libertés, donc j'espère que Gattuso va lui laisser. Mais voilà, je sais que lui aussi est très particulier sur les tâches défensives, donc, on verra bien, mais je suis pas sûr que son poste soit au milieu dans un 4-3-3. Pas te mentir, je pense qu'il a besoin d'être plus proche du but adverse. Après, on verra si c'était le premier match. Moi, je l'ai trouvé pas mal sur 10. Tu vois, je donnerais un 6, la moyenne en Italie. Il a été bon, il a pas été exceptionnel, mais je l'ai trouvé intéressant. Donc, je suis impatient de le revoir, mais voilà, il lui faudra la liberté. J'espère que Gattuso lui donnera.
Et donc, c'est le coup de folie du Milan sur ce
35 millions.
Transfert, 35 millions d'euros. On n'aura pas d'autres transferts à ce tarif-là, normalement, cet hiver, puisque Milan est toujours en train de négocier, de faire des appels, contre-appels au sujet de sa sanction pour le fair play financier. Donc on ne sait pas encore la marge de manœuvre du Milan sur ce mercato-là. Mais bon, Leonardo en tout cas avait dit que ça serait un mercato assez calme et pas avec des gros coups étincelants dans le sens des arrivées en tout cas.
Et dans le sens des sorties.
Et dans le sens des sorties, on en reparlera tout à l'heure, du coup.
Tout à l'heure, oui. Dans le rayon attaquant, je présume.
Exactement. Deuxième arrivée assez notable en Italie, Luis Muriel, de retour en Serie A. Après, son expérience un peu mi-figue, mi-raisin du côté de Séville. Ouais. Mais c'est un joueur aussi comme ça. Donc là, il revient à la Fiorentina.
Tu valides ce retour?
Bah, le problème, c'est que si on retrouve le Luis Muriel de sa meilleure période à l'Udinese, et j'ai envie de te dire oui... la meilleure période aussi à la Samp, pourquoi pas. Maintenant, si on retrouve le Luis Muriel un peu feignant, qui se cache, qui a 4-5 kilos de trop et qui a du mal dans ses mouvements et ses appels, forcément non. Donc voilà, là, je l'ai trouvé assez affûté lors de sa présentation comme nouveau joueur de la Fiorentina. Mais on sait qu'avec lui, c'est un peu tout ou rien et que c'est un joueur qui marche énormément par cycle. Et ça peut être très très bien pendant une dizaine de matchs, et puis à l'inverse, pendant une dizaine d'autres, passer totalement à côté. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça va apporter un peu de concurrence à Simeone en attaque, et ils en avaient vraiment besoin, parce que ce trio offensif, de manière générale, voilà, Piazza, Chiesa, Simeone est quand même assez décevant depuis le début de la saison, et puis un autre attaquant, qui est de retour en Serie A, il y a décidément pas mal de retours, c'est Manolo Gabbiadini, de retour à la Sampdoria chez lui. Alors c'est un montant assez significatif pour la Sampdoria, c'est 12 millions d'euros en tout avec un prêt de 3 millions d'euros et une obligation d'achat à 9 pour juin. Là encore, ça va offrir une nouvelle solution, parce qu'on sait que ça repose beaucoup sur Quagliarella là aujourd'hui. On en parlait lors du bilan la semaine dernière, ça repose sans doute un peu trop sur lui aujourd'hui, puisque De Frel est en train de retrouver une période de doute après avoir très bien démarré la saison. Et là, ça va apporter autre chose aussi. C'est un attaquant beaucoup plus physique, un attaquant de surface avec une lourde frappe. Donc, c'est aussi des caractéristiques différentes.
Il a besoin aussi de retrouver de la confiance. Gabbiadini, on sait que depuis, voilà, même à Naples, tu te rappelles, ça n'avait pas été fou. Il a marqué 16 buts, je crois, en une soixantaine de matchs. Donc, c'était pas énorme. Après, c'est au Southampton, c'est 10 buts sur 51 matchs. Voilà, il vient quand même de quelques saisons mitigées, donc il a aussi besoin de se retrouver. Et comme il l'a dit un peu sur Twitter lors de son arrivée, voilà, la Samp c'est chez lui, il m'avait l'air très content d'être revenu. Donc voilà, après Ferrero, comme tu dis, a fait un gros effort, il le voulait vraiment. C'est vraiment pas un sacrifice, mais c'est vraiment, comme l'expliquait un peu Sky Italy, c'est vraiment, voilà, ils l'ont vraiment voulu, ils ont fait un effort financier.
C'est un investissement important pour lui.
Exactement, pour le reprendre, donc voilà, ça va être un joueur à suivre. Et comme tu dis, ça va essayer de booster aussi l'attaque de la Samp, qui se repose beaucoup sur Quagliarella. Saponara, voilà, aussi, avec quelques coups, de temps en temps, coups de génie, comme contre Lazio, tu te rappelles, l'aile de pigeon qu'il avait mis. Mais voilà, c'est vrai que Quagliarella, c'est un peu la Quagliarella dépendance. Donc c'est vrai que Galvezini sera aussi là aussi pour lui fournir des ballons, hein, Quagliarella. Donc
bien sûr,
ça va peut-être pas tout changer, mais c'est vrai que c'est un élément en plus pour Gianpaolo.
Et puis ils ont fait signer pour alors là c'est pour juin, c'est pas pour cet hiver, mais ça a été annoncé en tout cas il y a ces derniers jours. C'est Morten Thorsby, le jeune milieu de terrain norvégien de qui joue à Heerenveen aux Pays-Bas.
Ah, je le connais bien.
Donc je le connais bien effectivement. C'est un relayeur assez intéressant, très très dynamique, assez actif à la récupération, quitte à mettre aussi beaucoup d'agressivité et donc faire pas mal de fautes. Mais c'est aussi un joueur qui techniquement a quelque chose de d'intéressant, parce qu'il est capable d'apporter beaucoup dans la construction du jeu et dans ses déplacements aussi. Donc c'est un joueur qui arrive libre et forcément intéressant. Après, ouais, est-ce qu'il passera le cap? On verra, mais parce que le cap sera pas simple à passer, mais voilà, il peut aussi compter sur des joueurs de l'hémisphère Scandinavie dans le club, avec Ekdal, le Suédois, etc. Donc pour l'acclimatation, ça peut être aussi intéressant pour lui. Quelques autres transferts. On va pas revenir sur Soriano et Sansone à Bologne, puisqu'on en a parlé lors du bilan. Ouais. C'est quand même deux joueurs qui risquent de faire du bien à cette équipe. Deux joueurs qui vont apporter voilà un peu de créativité, de folie, de qualité, de vitesse, ouais, dans le jeu, que n'avait absolument pas Bologne depuis le début de la saison. Et Santander risque d'avoir quand même un peu plus de bons ballons à exploiter, ouais, parce que les parpaings lancés depuis les défenseurs centraux sur lui pour des déviations de la tête, ça commence à être un peu...
Et d'ailleurs, Sansone a été élu homme du match hier contre la Juve par la Gazette.
En Coupe d'Italie, exactement. Ouais. C'était sa première apparition, comme Soriano qui était titulaire également. Autre transfert notable à l'échelle du football italien, Birsa. Ce bon vieux Walter, oui, Birsa, qui quitte le Chievo pour Cagliari. Je pense que c'est vraiment une bonne recrue pour Cagliari. C'est un joueur intéressant. C'était quand même un peu le monsieur plus du Chievo dans le secteur offensif. En gros, sans lui, il se passait pas grand-chose dans le jeu. Il a toujours son bon pied gauche qui lui permet de tirer notamment les coups de pied arrêtés.
Oui.
Donc c'est pas un transfert très cher, hein, c'est 500 000 euros, je crois, c'est ça. Et puis une option, je crois, si Cagliari se maintient ou quelque chose comme ça.
Mais c'est vrai que c'est un bon coup, hein. C'est un bon coup de Cagliari, parce que comme tu dis, c'était un peu le monsieur plus du kiff. Voilà, quand t'avais un coup franc dans la limite de la surface ou un centre à mettre ou voilà, c'est même pour Pellissier, c'est vrai que Birsa c'était un peu le joueur de qualité. T'as déjà Chiellini aussi, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc c'est vrai pour Cagliari, moi je trouve que c'est un joli coup à cette échelle-là. Voilà, Birsa connaît bien le championnat et c'est aussi un coup dur, voilà, revers de la médaille pour le Chievo qui lutte pour sa survie, même si c'est compliqué, évidemment. Lui,
on va dire, on a un peu l'impression qu'ils ont abandonné. Hein,
ouais, c'est vrai qu'il a un peu quitté le navire avant qu'il coule. Mais c'est vrai que pour le coup, non, moi je trouve que c'est un joli coup de Cagliari. Je suis impatient de le voir, l'ancien joueur du Milan, parce qu'il faut le dire. Ancien joueur du Milan, du côté de Cagliari. Et oui, on oublie trop souvent que Birsa joue à Milan. Johan.
Et puis le dernier transfert déjà effectué qu'on voulait noter, c'est Stefano Okaka qui est de retour en Serie A. La passerelle Watford-Udinese, et dans ce sens-là, marche très bien pour les joueurs qui ont besoin de se relancer. Voilà, on verra ce qu'il donnera. Ça fera un concurrent quand même assez sérieux pour Kevin Lasagna, qui réalise une première moitié de saison très décevante, avec seulement 3 buts au compteur, et c'est vraiment pas
international.
International italien, bien sûr. qui est dans le dur, et l'Udinese, et qui lutte pour ne pas descendre, a besoin d'autres attaquants capables de marquer des buts. Voilà pour les transferts déjà signés en ce début de mercato. On passe aux autres transferts qui sont en cours, dont les discussions avancent ou pas.
Au cœur des rumeurs.
Exactement. Alors on commence par les gardiens. Bon là, ça va être très simple. Il y a quand même un gardien qui est toujours très bon contre les grosses équipes, qui sort des matchs de sa vie quasiment à chaque fois. On se souvient des matchs contre la Roma, des matchs contre la Juve, des matchs contre Sassuolo, où il faisait des arrêts incroyables, etc. C'est Sorrentino du Chievo qui pourrait aller à Empoli. Donc là encore, hein, si le Chievo, après avoir fait partir Birsa, fait partir Sorrentino, bon, c'est quand même un aveu de on prépare la saison suivante en série B et les cadres, les trentenaires âgés, etc., bah, ils ont une autre opportunité de rester en série A. On peut le voir comme
ça. C'est quand même, ouais, c'est quand même très surprenant, hein. C'est quand même un transfert assez surprise, parce que je m'aurais dit que Sorrentino allait signer ailleurs ou allait quitter le Kiev en janvier. J'aurais pas mis ma main au feu, donc c'est vrai que ça sera assez surprenant, mais voilà, comme tu disais, ça vient un peu dans la continuité de Birsa, hein. Dans l'impression que le joueur du Kiev maintenant, voilà, pense plus à fuir qu'à rester. Donc voilà, mais c'est vrai que Sorrentino, comme tu dis, généralement, même contre la Juve, tu te rappelles, avec Ronaldo, elle avait arrêté en tout début d'année, tout début de saison, elle avait été beaucoup de buts. Donc c'est vrai que Sorrentino, contre les grandes équipes, il s'exalte toujours, voilà. Donc on verra bien, mais c'est vrai, pour le coup, ce serait un des transferts surprises de cet hiver.
Et puis, il pourrait être remplacé au Chievo par un jeune gardien brésilien
qui s'appelle
qui s'appelle Brazao. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais a priori.
Brazao.
Je vois que tu as fait portugais deuxième langue, évidemment. ça pourrait être la même formule que celle utilisée pour Julio César, qui avait rejoint le Chievo avant d'aller à l'Inter, mais en parfaite symbiose au niveau des dirigeants. Là, visiblement, c'est Sky Italy, hein, qui a parlé de ça en premier, expliquant que comme l'Inter n'a pas de place d'extra communautaire dans son effectif, elle pourrait réaliser ce transfert en parfaite harmonie avec le Chievo et le laisser au Chievo dans un premier temps avant de le récupérer l'été prochain. Il a 18 ans, il a déjà été appelé par Tite en sélection brésilienne. Donc c'est un gardien à suivre. Il a une clause libératoire quand même de 45 millions d'euros. Donc à voir, on le connaît pas, hein, bien entendu, on regarde pas le championnat brésilien, mais c'est un gardien qui est assez prometteur, et en tout cas vu comme prometteur par les spécialistes du poste. Donc à voir ce que ça donnera, mais ça peut être le nouveau Julio César de l'Inter. On sait que l'Inter va de toute façon chercher un gardien aussi, hein, à un moment ou à un autre.
34 ans, Danovic.
Ouais, donc il va falloir. Il a même pas plus, il a pas 35, non, il a que 34.
Il est né, alors je crois qu'il est né en 84, donc il aura peut-être 35 cette année, alors. Oui, c'est possible.
Ouais, c'est ça, il aura 35 ans en juillet. 35 cette année. Donc il a bien 34. Donc oui, effectivement, il va falloir, même si lui est encore sur des niveaux assez impressionnants cette saison, il va falloir aussi à un moment donné penser à la suite. Donc commencer avec un gardien en le laissant jouer des matchs de Serie A dans une autre équipe, etc., ça peut être la bonne pioche de l'Inter. Les défenseurs maintenant, on va passer directement aux défenseurs. Alors il y a pas mal de choses au niveau des défenseurs, je te propose de commencer par le gros transfert entre guillemets qui est proche d'être annoncé, proche d'être bouclé, mais qui se fera qu'en juillet prochain, c'est Diego Godin à l'Inter.
Ouais, bah écoute, ce serait un énorme coup, je pense. Parce que voilà, malgré l'âge de Godin, ce serait un énorme coup, fin de contrat. Simeone et les supporters font à peu près tout pour le convaincre de rester, mais c'est vrai que ça devient compliqué. C'est une petite bombe quand même. Moi, voilà, je trouve que c'est assez symbolique ce transfert, dans le sens où Godin, tu le fais passer il y a 2 ans à l'Inter. Quand tu t'allais mal, quand tu es en Europa League, moi je pense que Godin c'est vraiment aussi une étape en plus dans le processus de renaissance de l'Inter. Ils ont été en Ligue des Champions, ils se sont fait les deux premiers tours, mais au moins ils y sont revenus. En Serie A, ça devient quand même une équipe de plus en plus sûre. Donc petit à petit ils reviennent. Tu vois, le transfert de Godin, je trouve ça assez symbolique pour symboliser ça. Donc voilà, c'est évidemment un gros coup. Miranda vraisemblablement devrait faire lui ses valises. Ou en janvier ou l'été prochain, c'est à voir. Et voilà, Godin, voilà, ce sera un salaire de 4
millions 5.
Sur Miranda,
on peut préciser que la Roma est assez intéressée pour cet hiver.
Je crois que Godin, si je me rappelle bien, c'est 4 millions 5 de salaire avec bonus, donc ça ferait peut-être dans les 6 millions.
Net,
voilà, évidemment net. Donc voilà, sur le transfert, il n'y aurait rien, comme il est en fin de contrat avec Atlético, mais évidemment, ce serait quand même un énorme coup. Mais voilà, moi, je trouve ça vraiment très symbolique au vu du retour de l'Inter au premier plan. Donc voilà, mais bon, si tu fais une charnière Godin Skriniar ou Godin De Vrij, c'est quand même assez intéressant. Alors après faut voir parce que beaucoup lisent transfert de Godin, enfin, ou ce probable transfert parce que rien n'est officialisé, à un possible départ de Skriniar. Donc je sais pas ce que tu en penses, parce que c'est vrai que tu aurais 3 spécialistes du poste, tu aurais De Vrij qui est quand même titulaire. T'aurais Skriniar qui est évidemment titulaire et t'aurais Godin. Et Godin, il vient pas pour Cyril.
Non, mais c'est fort possible parce qu'on sait que l'Inter devra a priori sacrifier un gros cet été pour boucler
40 millions il leur faut.
Voilà, pour boucler son budget et notamment lié au fair play financier. Donc comme ils vont sans doute pas bazarder Icardi au mercato. Non. L'autre nom, et comme Perisic a perdu quand même beaucoup de sa valeur, le nom qui revient de manière assez logique, c'est Skriniar. Voilà, il est quand même très jeune, hein, Skriniar. Personnellement, j'ai peur que ça fasse un peu une deuxième erreur à la Cancelo la saison passée, de laisser partir un mec aussi jeune et aussi fort. Bon, je suis pas forcément hyper enthousiaste à cette idée-là, mais
tu penses qu'il vaut aux alentours de combien? 160 millions, 70?
Oui, 112, ouais.
Skriniar, par là, ouais. Ouais. Ouais, donc ouais. C'est vrai qu'avec ce transfert, tu boucles. Autant l'année dernière, on sait qu'avec le fair play financier, l'Inter, tu te rappelles, elle avait vendu plein de petits joueurs.
Ouais.
Histoire d'arriver à une somme
et un peu rondelle chaque année. Hein.
Voilà. Sauf que là, cette année, ça me paraît un peu compliqué. Donc, c'est vrai que si tu vends Skriniar, bon, voilà, t'es dans les clous. Mais c'est vrai que l'Inter a trouvé 30 à 40. Donc, ça passera forcément par un transfert assez important. Donc, à voir si ça Skriniar. On sait que les négos pour les prolongations sont pas simples. Il y a encore beaucoup de désaccords. Donc, à suivre. Mais on sait que Manchester, elle aime beaucoup. Mourinho avait essayé l'été dernier. Bon, depuis, il n'est plus le coach de United, mais il avait même bien essayé, il n'avait pas réussi. Mais c'est vrai que Skriniar sera un dossier à suivre l'été prochain, surtout s'il n'a pas prolongé d'ici là. Donc, affaire à suivre, comme on dit.
Ensuite, il y a deux défenseurs centraux qui intéressent des plus gros clubs italiens. Alors, il y a Gianluca Mancini, dont on a déjà parlé plusieurs fois cette saison, parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on aime beaucoup et qui s'impose vraiment de manière définitive cette saison dans la charnière de l'Atalanta, sachant qu'il peut jouer dans une défense à 2 ou une défense à 3, donc c'est assez intéressant. Et qu'en plus, c'est un défenseur buteur qui met quand même beaucoup de buts sur les phases offensives de son équipe, et qui a un très bon jeu de tête et qui est toujours très bien placé sur coup de pied arrêté. Qui intéresse beaucoup la Roma. Monchi a donné une grande interview à la Gazzetta dello Sport cette semaine en expliquant que il l'intéressait, mais que ça serait sans doute plus pour cet été, parce que c'est pas un transfert. Alors déjà, on voit pas l'Atalanta forcément lâcher son joueur en cours de saison, alors qu'il réalise une bonne saison et qu'ils peuvent toujours se qualifier pour l'Europa League, voire, et pourquoi pas, un peu plus haut, la Ligue des Champions, si ça continue à pas avancer devant lors des prochaines semaines. Et puis la Roma a pas forcément ce budget-là cet hiver en cours de saison, sachant que Mancini a expliqué que ça serait quelques retouches, mais que l'essentiel des transferts, le plus gros, avait été fait l'été dernier. Donc ce sera sans doute plutôt un transfert pour l'été prochain. Et puis l'autre joueur dont tu m'as parlé tout à l'heure avant qu'on commence le podcast, qui joue au Genoa et qui intéresse la Juve, Guillaume.
Oui, c'est Romero qui est vraiment pas mal, qui réalise une très très bonne saison. C'est vrai que voilà, ça négocie avec la Juve, qui aimerait au moins poser une option sur lui pour l'été prochain. Alors pourquoi pas les recruter dès janvier et le reprêter ensuite, comme ça se fait un peu de coutume. Mais c'est vrai que la Juve le veut vraiment. C'est vraiment un objectif pour ce mercato hivernal, peut-être en vue de celui estival. À voir si l'accord sera trouvé, c'est pas simple. On sait de négocier avec Preciosi qui a quand même bien aussi gonflé les prix. Donc voilà, ça va pas être simple. Mais voilà, c'est vrai que la Juve le veut.
Alors on précise, hein, Mancini, il a 22 ans, le défenseur de l'Atalanta, et Romero a 20 ans. Il a joué que 11 matchs pour l'instant de Serie A. Il est arrivé cet été en provenance du championnat argentin, mais c'est vrai qu'il s'est fait remarquer dans une équipe qui tournait pas forcément très très bien. En tout cas, sur le plan défensif. Donc voilà, on sait que la Juve est toujours à l'affût. Hein. Dès qu'il y a un bon joueur qui émerge, un jeune joueur, hein, ils avaient réussi à attraper Rugani, ils avaient réussi à attraper...
Du coup, quid de Rugani, t'en fais
Caldara
quoi?
Caldara aussi, qu'ils avaient récupéré Caldara, comme ça. Donc,
qu'est-ce que tu fais de Rugani, du coup, qui a annoncé un peu comme un grand espoir depuis longtemps, mais en soi, qui joue pas beaucoup.
Moi, j'imagine que ça peut être pour remplacer Benatia, qui risque de partir cet été.
Ou Barzali,
avec en gros Chiellini, Bonucci qui seront toujours indispensables et numéro 1, numéro 2, et Rugani passerait numéro 3 avec Romero numéro 4, voilà, le temps qu'il s'acclimate à...
Et Barzali qui va probablement arrêter aussi.
Voilà, je pense que ça pourrait se goupiller un petit peu comme ça. Ensuite, du côté d'autres défenseurs dont on va évoquer les cas, il y a Lazzari qui pourrait éventuellement filer, ton chouchou Lazzari qui évolue à la Spal. Oui. Qui pourrait filer au Napoli. Alors là encore, hein, c'est en cas de départ d'Isai, dont on sait que voilà, il joue un petit peu moins ces derniers temps, et il est, on va dire qu'il est un peu moins indispensable qu'avant, on va dire ça comme ça, et le Napoli pourrait aller chercher du coup Lazzari pour jouer sur le poste de latéral droit. C'est un joueur que t'aimes beaucoup.
Oui, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup ses qualités, j'en ai assez parlé, voilà, un latéral qui joue la tête levée, qui fixe, qui centre, qui multiplie les courses. J'étais dans la Gazzetta il y a pas longtemps que c'était un des joueurs qui a fait plus de passes décisives dans la première partie de saison, donc voilà, il le prouve aussi par ses stats. Après voilà, c'est 25 millions. Ouais. Lazzari aux alentours.
C'est cher, hein. C'est
cher. Je suis pas sûr que De Laurentiis va y poser 25 millions sur Lazzari. Après voilà, on sait que Isa va probablement partir, l'agent l'a dit. Donc le Napoli va recruter forcément latéral droit. On sait que Malcuy, bon voilà, pour le moment, est pas titulaire, il fait quelques matchs par-ci par-là, mais bon, c'est vrai que c'est encore, surtout dans la phase défensive, c'est encore un peu compliqué. Mais c'est vrai que Lazzari, voilà, moi j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'il confirmera ses bonnes qualités à Napoli? Au Napoli, je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup à la Spal, dans la réalité de la Spal. Est-ce que dans une toute nouvelle réalité, sur la scène européenne, est-ce qu'il tiendra son rang? C'est à voir. Mais c'est vrai que
c'est forcément un risque, hein, quand tu prends un joueur qui a éclaté sur une saison. T'as forcément le risque de te dire, oui, mais c'était une saison, les joueurs. On les appelle les joueurs d'une saison. T'en as qui confirment derrière et puis t'en as qui confirment pas du tout. Donc c'est un risque à prendre. On sait que ce genre de joueur-là, bah, coûte très cher parce que s'il explose directement, bah, il attire beaucoup d'intérêt. On reparlera de Piontek, par exemple, un peu plus tard. Mais c'est des joueurs qui ont réussi pendant une saison dans des clubs de moindre envergure, on va dire. Et ensuite, il faut transformer l'essai dans les plus gros clubs. Donc il sera sans doute dans cette position-là s'il vient à rejoindre le Napoli. Deux, trois encore petits transferts évoqués sur les défenseurs, Guillaume. La Roma, on sait que donc ils sont sur Mancini. Ils cherchent absolument un défenseur central parce qu'Ivan Marcano n'a pas convaincu, qui est arrivé gratuitement en provenance de Porto, qui pourrait repartir cet hiver ou alors cet été, un peu comme Hector Moreno, hein, la saison dernière, qui était censé faire le numéro 4 dans la liste des défenseurs centraux et qui, quand il avait joué, n'avait pas été très performant. C'est la même chose pour Marcano. Moreno était reparti au bout de 6 mois, si je dis pas de bêtises, à la Real Sociedad. Et bien là, il va falloir trouver aussi peut-être une porte de sortie à Marcano. Et l'autre joueur qui est suivi avec très grande attention par la Roma, ça ne va étonner personne, c'est un jeune joueur à la Monchi, c'est le Turc Ozan Kabak de Galatasaray, 18 ans. Il a une clause libératoire de 7,5 millions d'euros, donc c'est aussi pour ça que la Roma aimerait boucler le transfert rapidement. C'est pour éviter une prolongation avec une hausse de la clause libératoire. Donc à voir si la Roma réussit à faire un transfert d'un défenseur central cet hiver. Et puis l'autre joueur qui peut éventuellement arrivé par contre là dès cet hiver, c'est Zappa Costa, puisque la Lazio cherche un latéral droit.
Oui.
On sait que c'est assez compliqué à ce poste-là. Il y a Lulic parfois qui dépanne même sur ce poste-là. Le problème c'est qu'il va falloir convaincre déjà Chelsea de le lâcher. Alors sachant que la Lazio veut pas faire de transfert, donc déjà c'est un prêt avec option d'achat. Donc forcément quand on arrive en négociation avec aussi peu d'arguments, c'est parfois compliqué pour convaincre un club, et puis même aussi au niveau salarial, parce que Zappa Costa à Chelsea, c'est un très gros contrat, et on sait que la Lazio va pas bouleverser sa grille de salaire pour...
On sait que le prêt avec l'option d'achat, c'est vraiment la formule du moment, depuis quelques temps quand même, c'est vrai qu'avec le fair play financier, le fait que tes comptes soient épiés au centime près, c'est vrai que le prêt avec l'option d'achat, ça te permet de... Un peu comme a fait le PSG avec Mbappé, par exemple, ça permet de décaler d'un an beaucoup de choses, donc... Pas Zappa Costa, faut qu'il se relance aussi, hein. Chelsea, c'est quand même pas la folie. Mais comme tu dis, il y a encore des obstacles financiers. Je pense que Chelsea serait pas contre s'en séparer, mais à quel prix?
C'est
quelle
un peu condition. Comme Darmian, quoi. Manchester serait pas contre le lâcher, mais le problème, c'est qu'ils vont pas lâcher en prêt avec option d'achat.
Enfin, exactement.
Il y a assez peu de chances que ça arrive, donc c'est des joueurs qui peuvent partir, on va dire, aux alentours de 10 millions d'euros, par exemple.
Ouais.
Mais bon, quelle la
Lazio? Jamais la Lazio. Ouais, évidemment.
Et envie de mettre 10 millions d'euros sur ce joueur-là. Et puis enfin, le dernier que j'avais noté, Spinazzola, qui était vraiment excellent à l'Atalanta l'année dernière, avant qu'il se casse la jambe, de mémoire. Je sais plus je sais plus si c'est une fracture ou si c'était les ligaments croisés, je sais plus trop, mais en tout cas c'est une blessure qu'il avait tenue éloignée des terrains très très longtemps. Là, qui a joué hier, hein, contre,
il a joué hier, ouais.
Contre Bologne du côté de la Juve.
Ouais.
Et justement, c'est Bologne qui est intéressé pour le récupérer, puisque Dijk, le néerlandais a pas forcément convaincu sur au poste d'arrière gauche. Donc voilà. Donc, ça serait bien pour lui, hein, parce que Spinazzola va quand même pas beaucoup jouer cette saison, puisque.
Non.
Bah, Alexandro déjà en titulaire. En remplaçant, ça peut être entre De Ciglio et João Cancelo qui a été utilisé à ce poste-là, donc bon.
Ah, le problème, c'est que tu vois, la Juve, à force de recruter des joueurs par-ci par-là aussi, se retrouvent en surnombre. Alors, Spinazzola, comme tu dis, à la tendance, c'était quand même très très fort. Il avait insisté aussi pour lui revenir à la Juve l'année dernière. Maintenant, bon, comme je te dis, voilà, la Juve, forcément, va pas beaucoup l'utiliser cette saison. Donc lui, je pense qu'il dirait pas non à aller voir ailleurs. Après, Bologne, voilà, c'est une autre réalité, c'est une autre équipe, c'est des autres ambitions. Quand tu passes de la Juve, où tu ne joues pas, à Bologne, tu pourrais être titulaire, c'est vraiment un choix de carrière, hein, pour le coup, ça appartient aux joueurs.
Mais sachant que ça pourrait être un prêt, hein, là, pour le coup, parce que la Juve est quand même mise sur lui à l'avenir. Donc, je suis pas sûr que la Juve s'en sépare de manière définitive sur ce mercato d'hiver.
Ça pourrait être après 6 mois, par exemple.
Ouais, exactement, 6 mois, on peut même imaginer une option d'achat avec une contre-option pour la Juve qui fait ça de manière assez récurrente avec les nombreux jeunes joueurs de son effectif qui servent ensuite de monnaie d'échange ou de ce genre de choses-là. Donc voilà, au moins sur 6 mois pour rejouer, ça pourrait être...
Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'un prêt, généralement, c'est fait aussi pour, tu vois, pour t'aguerrir un peu ou pour les jeunes joueurs. C'est vrai que Spinazzola, quand même, maintenant, c'est quasiment un joueur confirmé. Alors, Davanta, il avait quand même fait le taf, il avait fait plusieurs belles saisons. Maintenant, je pense que lui, il a quand même pour ambition de t'es titulaire, peut-être pas dans un grand club, mais dans un très bon club, mais malheureusement, comme tu dis, à la Juve, t'as pas, quand même pas beaucoup de postes, donc voilà, c'est compliqué pour lui, mais c'est vrai qu'un prêt, ça pourrait être la bonne solution, et je pense que c'est même envisageable d'ici à la fin du mercato.
Alors, on va passer au milieu de terrain, c'est là où il y a évidemment le plus de choses à dire, parce qu'évidemment, milieu de terrain, ça englobe les milieux de terrain défensifs, les relayeurs, les offensifs, même les joueurs de côté, etc., donc... Il y a évidemment beaucoup de noms. On va commencer par les plus petits d'entre eux. On va les appeler comme ça. Notamment les deux joueurs d'Empoli. Alors que j'en avais parlé lors du Dynamic Podcast. Moi, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Bennacer et Traoré. Bon. Alors, le Yakini a clairement fait savoir que lui, il voulait pas que les deux joueurs partent. Ou même qu'un seul parte. Parce qu'évidemment, c'est deux pièces importantes de son effectif. Et que, Empoli aura besoin d'eux pour se maintenir et pour lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Donc ça, voilà. Sachant que Traoré intéresse l'Inter, ça sera plus du long terme, donc plus pour cet été. Par contre, Bennacer, c'est la Roma qui le veut. Elle le voudrait dès cet hiver. Ça sera un peu une opération low cost pour la Roma, entre guillemets, parce que c'est sûr qu'ils vont pas aller chercher un gros milieu de terrain cet hiver. Et donc, ils essayent de trouver une alternative à... notamment à De Rossi qui ne revient toujours pas. Ça c'est, on en parlait avec Stanislas la semaine dernière.
Oui.
Son problème de genou continue, donc il faudrait un milieu de terrain supplémentaire à vocation, on va pas dire défensive, mais capable d'un peu tout faire, parce que voilà, Nzonzi et Cristante sont trop seuls depuis le début de la saison, ils pourront pas faire toute la deuxième partie de saison. Ensuite, autre joueur qu'on peut évoquer, Stefano Sensi. Du côté du Milan, qui est annoncé du côté du Milan, milieu de terrain de Sassuolo, très petit, mais grand talent, évidemment.
International maintenant,
qui est vraiment très intéressant depuis le début de la saison, qui fait partie des très bons joueurs de Sassuolo, une équipe qui nous régale depuis quelques mois maintenant. Là encore, on parle de 25 millions d'euros, mort du coup pour Milan. Sur cette formule-là, en tout cas, c'est pas possible. Parce que Milan aura pas 25 millions d'euros à mettre sur Sensi. Peut-être cet été.
Ils ont mis 35 sur Paqueta, donc.
Voilà, donc peut-être cet été ou peut-être un autre club cet hiver, mais c'est un joueur qu'on évoque pas mal dans la rubrique Mercato.
C'est vrai que c'est un joueur qui plaît beaucoup à Leonardo. Et il y a eu beaucoup de discussions avec Sassuolo depuis même avant le début Mercato hivernal. Mais comme tu dis, 25 millions, c'est beaucoup trop. Après, malheureusement, c'est l'inflation des prix sur les Mercato. Donc tout joueur qui aurait pu valoir 10 millions il y a quelques années maintenant en vaut 25, hein, donc forcément voilà, c'est compliqué. Pour l'été prochain, ça pourrait être un coup du Milan, mais j'ai l'impression que c'est pas un nom qui fait rêver les tifosi. Alors évidemment, ils sont habitués aux grands noms, mais Sensi, c'est quand même un bon joueur. Moi, avec l'Italie, il m'avait beaucoup plu.
Oui.
Il avait été plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est un joueur très technique. Et on sait que le problème du Milan depuis des années et des années et des années, c'est le milieu de terrain. C'est aussi pour ça que les attaquants ont beaucoup de mal. Donc, il faut à tout prix refonder et reconstruire le milieu de terrain. Et on sait que Montoli va partir. Bilia à son âge, José Mori va probablement partir, Bertolacci va partir, Bakayoko, faut voir ce qui va se passer par rapport à sa situation avec Chelsea. Donc c'est vrai que Milan doit renforcer son entrejeu. Et c'est vrai que Sensi, moi j'aime bien le genre de joueur voilà qui joue vers l'avant, qui a une vision de jeu, qui accélère la manœuvre. Donc ça sera intéressant à voir. Après évidemment que c'est pas un nom comme ça sur le papier qui fait rêver, voilà, parce que les tifosi aimeraient des joueurs comme Modric, Kroos, mais voilà, c'est la réalité aussi du moment. Donc si tu vas pas avec des champions, tu vas devoir aussi te rabattre sur des joueurs qui ont pas forcément un gros nom. Donc Sensi, ça pourrait être quand même un coup du Milan. On sait que pour le coup, ils le veulent vraiment vraiment beaucoup.
On a aussi le cas de Sandro Tonali, on va passer rapidement. un de mes chouchous depuis le début de la saison, mais ça sera pour cet été, hein. Il ne partira pas cet hiver, ce sera un investissement qui sera assez lourd, puisque Brescia en réclame minimum 20 millions d'euros, mais ça risque de partir un petit peu plus haut, parce que tout simplement, tous les gros clubs italiens le veulent. Et donc, s'il y a des enchères, eh bien, le prix risque de s'envoler, et c'est un joueur hyper intéressant. Autre joueur dans le viseur, Hector Herrera, le milieu de terrain de Porto, le Mexicain. Alors, voulu par la Roma depuis quelques mois, par l'Inter aussi. Monchi, dans son interview à la Gazzetta, a expliqué que ça serait impossible. Donc, a priori, peut-être piste refermée du côté de la Roma. Mais en tout cas, l'Inter continue à être intéressé pour ce joueur, qui sera libre en juin. Donc, c'est pour ça qu'on en parle dès cet hiver. Porto pourrait récupérer un peu d'argent sur lui. Mais en même temps, est-ce qu'ils vont se priver d'un maillon essentiel alors qu'ils jouent la Roma dans un huitième de finale très ouvert de Ligue des Champions, c'est pas certain non plus. Donc on sait qu'il y a la concurrence de l'Olympique Lyonnais aussi. Donc on verra ce qu'il adviendra de d'Hector Herrera, souhaité en tout cas par l'Inter.
Oui, beaucoup de clubs.
Je te propose de parler d'Obiang maintenant, vers la Fiorentina. Alors si la Fiorentina réussit à faire Obiang, ce sera très intéressant pour son milieu de terrain. C'est un joueur qui apporte beaucoup de dynamisme, de densité physique, qui a aussi une vraie bonne qualité technique, passé par la Samp, exactement. La Fiorentina essaye de convaincre West Ham de le lâcher. Je crois que la dernière offre, c'est aux alentours de 10 millions d'euros, il me semble.
Exactement,
si je dis pas de bêtises.
Plus un de bonus.
Voilà. C'est Di Marzio, hein, qui a évoqué cette possibilité-là. Donc, à suivre si, mais en tout cas, ce serait une vraie plus-value pour le milieu de terrain de.
Il y a aussi le LOSC qui est intéressé, hein.
Visiblement.
Par Obiang, ouais. Mais c'est vrai que voilà, ce serait encore un retour pour le coup. Enfin, ce serait un peu le marqué de tous les retours, je pense. C'est vrai que ce serait encore un retour de Obiang, mais comme tu dis, c'est vrai qu'il ferait du bien à la Samp. On sait que le joueur, veut signer à la FIO, il veut rejoindre la FIO, il veut aller à Florence. Donc, on va voir, on sait généralement, la volonté du joueur est un peu reine sur les mercato. Voilà, quand un joueur décide d'aller quelque part, généralement, il y va. Donc on verra, mais c'est vrai que déjà tu vois 10-11 millions, c'est quand même un joli transfert, hein, pour Obiang qui est à West Ham. Donc voilà, on verra, mais ça pourrait être un des dossiers chauds de ces semaines de mercato qui se terminent le 31 janvier.
Alors je te propose de zapper, même si on en parle, Disco à la Juve, parce que ça ne se fera clairement pas cet hiver, donc ça sera cet été et on aura le temps d'en reparler. Je voulais que simplement l'évoquer parce qu'on risquait d'avoir des questions ou des remarques à ce sujet. Ramsey à la Juve. Alors là, c'est fait pour cet été, mais il se pourrait aussi que la Juve décide d'anticiper un peu l'avenue.
Bah écoute, ils aimeraient eux le recruter dès janvier, mais honnêtement, ça me paraît très compliqué. On sait qu'Arsenal veut pas le lâcher, Emery veut pas s'en séparer. Arsenal réclame aux alentours de 20 millions.
Ouais.
Pour un joueur parler des janvier, voilà, honnêtement, ça vaut pas le coup. Je pense que la Juve va attendre et ils peuvent attendre 6 mois parce que c'est quand même un gros coup aussi, encore un coup gratuitement entre guillemets, parce que voilà, on rappelle qu'avec les commissions aux agents, on sait que l'agent de Ramsey va prendre une grosse enveloppe dans ce
match, comme celui de Brechan. que Brechan.
Je sais pas, mais honnêtement, il va prendre un gros billet, donc voilà, mais. Après, je pense que, honnêtement, Ramsey, je pense que 99,9%, comme disait notre bon vieux Adriano Galliani, Je pense que c'est un peu mort pour janvier, mais ce qui est acté, c'est que il va signer normalement après la Supercoupe. Donc la Supercoupe contre Milan, c'est mercredi. Donc je pense qu'avant dimanche, les contrats devraient être signés et ratifiés pour l'été prochain. Et je pense qu'on va en rester là, parce que honnêtement, je pense pas à Ramsey. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je pense qu'il y a quasiment aucune chance pour qu'il arrive dès janvier.
Oui, puis je vois surtout pas l'intérêt économique, ni même sportif,
évidemment,
d'aller dépenser 20 millions d'euros alors que tu peux l'avoir gratuitement cet été. Je vois pas trop l'intérêt. Et si on parlait de Yannick Ferreira-Carrasco?
Ah.
Eh oui, ça concerne l'AC Milan.
Dont la coupe de cheveux, hein, reste parfaitement laquée.
Exactement, ça bouge pas.
Ça ne bouge pas. Écoute, Carrasco, oui, parce que c'est un profil qui plaît beaucoup à Leonardo, surtout Gattuso aussi. Voilà, il est dans un 4-3-3 parce qu'on sait que Gattuso veut continuer avec son 4-3-3. Voilà, il aime ce profil un peu de dribbleur, de joueur qui, comment dire, qui casse aussi son vis-à-vis, qui le fixe. C'est vrai que voilà, c'est pas par exemple Çalhanoğlu qui pour moi joue quand même pas à son poste, mais c'est vrai que Carrasco sur le côté, ça donnerait quand même un autre visage à l'attaque du Milan. Après, il y a aussi ses défauts, il est quand même irrégulier. L'Atlético, il s'est pas non plus imposé voilà, sur le long terme. Maintenant, il est en Chine. Le problème du transfert, enfin du prêt, parce qu'on parle évidemment d'un prêt avec option d'achat, c'est que déjà son club chinois ne veut pas. Ils aimeraient s'en séparer. Bah, ils aimeraient le garder, mais s'ils s'en séparent, ils aimeraient bien un transfert définitif. Et le gros problème, c'est que Carrasco prend 10 millions en Chine. Donc 10 millions, je vois pas par quelle magie du Saint-Esprit Milan peut les offrir à Carrasco. Ça sera encore plus que Higuain,
ouais,
qui gagne déjà 8,5 plus bonus, enfin plus 1,5 pour arriver du coup à 10 millions. Donc honnêtement, voilà, Carrasco, on sait et ça a été confirmé que c'est vraiment un objectif du Milan. Le problème, voilà, c'est économique. Donc ça va être très compliqué de boucler ce transfert.
Trois autres transferts encore du côté des milieux de terrain. Alors il y a celui que toute l'Italie veut encore, un autre joueur un peu comme Tonali, c'est Nicolò Barella, et finalement qui a peut-être échappé au club italien, puisque ouais, alors c'est Sky Sport News et je crois qu'il y a le Daily Telegraph qui en a, oui, remis une couche derrière, qui explique qu'il y a un accord avec Chelsea, donc il pourrait aller à Chelsea dès cet hiver, et donc c'est un joueur qui pourrait échapper au gros club italien, ce qui serait fort dommage, hein, puisque, et puis même pour lui, je trouve, je parlais avec un supporter de Chelsea sur Twitter qui me demandait mon avis sur Barella, et je lui disais que bon, déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve assez mature dans le jeu, qui a beaucoup de qualités, etc. Mais pour moi, passer de Cagliari à Chelsea, pour moi, c'est trop. C'est un écart qui est trop grand. Alors, il peut le réussir, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà. Déjà passer de Cagliari par exemple à un club comme Naples ou la Roma ou la Juve, des fois c'est pas simple. Mais là en plus changer de championnat avec un championnat totalement différent, donc changer de pays, de langue, s'acclimater, etc. Avec des joueurs déjà bien installés, etc. Bon, ça me paraît pas forcément la meilleure idée pour sa carrière. J'aurais bien vu dans un club de niveau intermédiaire aujourd'hui, donc c'est-à-dire pas la Juve, mais tous les autres, hein, Naples, l'Inter, la Roma, Milan.
Ouais.
Je l'aurais bien vu dans une de ces équipes-là où il serait important dès le départ, en fait. Et bon, a priori, ouais, ça pourrait aller à Chelsea plutôt.
Ouais, après, son prix, voilà, c'est autour de 50 millions minimum. Donc moi, je suis un peu de ton avis, voilà, j'aurais aimé qu'il reste en Italie. J'aimerais qu'il reste en Italie, je l'espère. On sait que le club qui est en pole position en Italie, c'est Naples. Ils sont en contact fréquent avec Cagliari, l'entourage du joueur. Ils essaient de le convaincre. Après, Barella arrivera à Naples uniquement si Alan s'en va. Mmh. Je pense qu'on en parlera après d'Alan. Mais c'est vrai que Barella, pour le moment, voilà, c'est Sky Sports qui donnait quasiment le transfert comme acquis, hein,
ouais,
à Chelsea. Pour le moment, c'est pas encore confirmé.
Lui et Paredes, d'ailleurs.
Voilà, lui et Paredes. Sky Italy n'a pas non plus confirmé ces rumeurs-là. Donc, à voir. Mais c'est vrai qu'en Italie, c'est vrai que le club le plus chaud, on va dire, c'est Naples. Donc, à voir si ça va se faire. Mais sans départ d'Alan, t'auras pas Barella. Donc,
alors, puisque tu évoques le cas, oui, Alan, je pense que ça peut être réglé assez rapidement. Hein, c'est que 100 millions d'euros du PSG pour Naples, faut oublier. Hein, ça.
Et t'as vu que la rumeur circule pourtant. Hein.
Bien sûr, mais faut arrêter, ouais, avec ça. C'est pas possible. C'est infaisable. Donc, comme c'est un joueur qui peut partir à partir de combien? 60, 70 millions, 80
oui.
millions?
Ah oui, là, honnêtement, je pense que Naples espère minimum le prix de départ pour négocier, c'est 80.
Ouais. Et il y a très peu de clubs qui sont prêts à mettre ça aujourd'hui. Et donc, non. Je pense qu'il reste.
Encore moins en janvier. Encore moins
je pense
janvier.
Qu'il restera jusqu'en juin. Et par contre, c'est un joueur qui ferait beaucoup de bien au milieu de terrain du PSG. Ça, c'est
exactement.
Évident.
On se rappelle, on avait parlé quand on a vu le match.
Ouais.
Contre
bah,
Naples.
Entre les deux d'ailleurs, ouais.
Ouais. Mais c'est vrai que ça ferait un joueur qui ferait du bien. Mais après, voilà, on sait aussi que dans le mercato, les agents se servent aussi de telles rumeurs.
Bien sûr.
Voilà, on sait que l'agent a déjà rencontré Ancelotti depuis, a rencontré Giuntoli, le directeur sportif. Donc voilà, ils ont négocié aussi peut-être une augmentation de salaire. Donc voilà, ça joue aussi. Après, c'est impossible que le PSG dépense 80 millions d'Esper Catola. On sait qu'ils évaluent le joueur aux alentours de 40, 45 maximum. Donc la distance est évidemment pour le moment incommensurable. Donc Alan ne bougera pas, à moins un coup de théâtre invraisemblable. Mais ça serait quand même très étonnant qu'il bouge en janvier pour une somme qui est totalement déraisonnable pour le PSG à l'heure actuelle. Hein. C'est 80 millions qui les valent, j'ai pas beaucoup de doutes.
Oui, moi non plus.
Mais là maintenant, on sait bien que le PSG ne dépensera pas cette somme-là, ça non. C'est évident.
Et puis on va boucler les milieux de terrain avec deux joueurs qui intéressent là pour le coup l'Inter. C'est alors il y a Rodrigo De Paul qui est
oui.
un joueur très intéressant. On va dire la seule éclaircie dans la nuit depuis le début de la
oui.
saison de l'Udinese et voilà, c'est un joueur très percutant qui peut jouer en partant du côté gauche ou un peu en position de numéro 10 ou de second attaquant. C'est un joueur vraiment assez polyvalent, très technique, grosse frappe de balle, belle vision du jeu. Voilà, donc c'est un joueur qui est hyper intéressant. On sait alors c'est la Gazzetta hein, qui en a beaucoup parlé ces derniers jours et qui explique que l'Inter voudrait anticiper son arrivée, c'est-à-dire boucler le transfert dès le mois de janvier,
oui.
et qu'il n'arriverait, pardon, je vais y arriver, qu'en juillet, parce que déjà l'Udinese, j'ai du mal à imaginer qu'ils veulent se séparer de lui, alors que c'est le joueur le plus décisif de cette équipe, ça serait quand même problématique, alors que l'Udinese lutte pour ne pas descendre. Et puis deuxième chose, ils veulent éviter, donc l'Inter veut éviter les enchères de cet été. Parce que c'est un joueur qui est appelé en sélection en Argentine maintenant, qu'il y a d'autres clubs qui vont forcément s'intéresser à lui. On peut aussi imaginer qu'il y ait la passerelle Watford.
La fameuse
passerelle ouais. avec le bon joueur qui part du côté de Watford. Donc voilà, donc ça c'est le premier dossier. Puis le deuxième, c'est un peu le marron, hein, le marronnier, Modric. Comme cet été, est-ce que ça peut se faire cet hiver? Non. Est-ce que ça peut se discuter actuellement pour se faire cet été? Possible.
Oui, parce que, alors, Dieu sait qu'on, même quand on tweetait, ou quand je tweetais l'été dernier, quand Sky Italy annonçait que c'était dans les tuyaux, tout le monde n'y croyait pas, et pourtant si. Encore une fois, faut pas confondre le fait que, c'est comme la Juve avec Isco. Ça ne veut pas dire que la Juve va prendre Isco. C'est-à-dire que la Juve vient t'intéresser par Isco. Mmh. Et on sait que Modric, la vérité, c'est que Modric a voulu aller à l'Inter. Ça a été, voilà, on le sait. Ausilio, le directeur sportif, a confirmé qu'il y avait eu, voilà, il y avait pensé. C'était un rêve. C'est un rêve qui a failli se transformer en réalité. Si Perez ne s'était pas mis entre les deux, à mon avis, Modric aurait pu signer. Mais c'est vrai que pour le coup, l'Inter n'a pas lâché. Est-ce que ça se fera? On ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que l'Inter, à mon avis, hein, à mon avis, ils vont retenter le coup, parce qu'on voit bien comment le Real en ce moment, c'est aussi un peu le, on sent que c'est un cycle qui se termine, donc il y a des joueurs qui vont partir. Après, vendre ton ballon d'or, je pense que ça fera un peu de tâche pour Perez, qui est déjà pas en position de force à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que pour le coup, Modric n'a toujours pas prolongé, alors que tu te rappelles, pourtant c'était un peu annoncé à l'étudiant oui. en Espagne, il disait que voilà, Modric allait prolonger, que ça serait imminent, et pas du tout. Il est toujours à prolonger. On voit bien qu'il n'est pas non plus très épanoui actuellement. Donc voilà, il a voulu aller à l'Inter l'été dernier, ça s'est pas fait. Est-ce qu'on va revivre les mêmes rumeurs l'été prochain? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, cet hiver, t'as bien vu les journaux, on en a reparlé beaucoup. Donc l'été prochain, à mon avis, va falloir s'apprêter à retrouver le feuilleton Modric Inter qui pourrait cette fois, pourquoi pas, avoir un épilogue différent de celui de l'été dernier.
Alors, on va passer au feuilleton des attaquants, parce qu'il y en a pas mal aussi, là, on a fait ceux des milieux de terrain. Du côté des attaquants, alors, je propose de commencer par Higuain, parce que c'est peut-être un peu la clé du mercato.
On
en a déjà pas mal parlé lors des podcasts précédents, donc on va simplement rappeler la situation. prêté par la Juve au Milan, 18 millions d'euros pour ce prêt. Oui. Option d'achat avec un salaire qui est payé entièrement par Milan. Salaire, donc, tu l'as donné tout à l'heure, de 8,5 millions d'euros hors bonus.
Plus
1,5. Ouais. Donc, le Milan paye à peu près 18-19 millions d'euros avec les taxes pour le salaire. Option d'achat, 36 millions d'euros à la fin de la saison. Leonardo a déjà expliqué que ça dépendrait d'une qualification en Ligue des Champions, parce que sinon, ce sera compliqué à financer, clairement. Aussi bien l'achat que le salaire, hein, d'ailleurs, parce que c'est même pas tant l'achat, c'est plus le salaire qui va être compliqué aussi à gérer sur un salaire de 3-4 ans. Et aujourd'hui, avec des performances un peu en dents de scie à Milan, on parle d'un intérêt de Chelsea, où il y a son ancien entraîneur à Naples, Maurizio Sarri.
Écoute, on sait que les deux ont une relation très, on va dire, très particulière, ils sont très attachés l'un à l'autre, ils sont en contact fréquemment, ils s'aiment beaucoup. C'est pas un secret, d'ailleurs, il ne l'a pas caché, Sarri a demandé à ses dirigeants de le recruter. Alors voilà, on sait que du côté de Chelsea, c'est un peu compliqué en ce moment parce que les dirigeants et Sarri ont un peu des visions différentes sur le mercato. On rappelle qu'ils ont acheté Pulisic, pardon, pour un joli montant quand même. Donc voilà, ils n'ont pas forcément envie de faire beaucoup d'autres investissements. Sarri, lui, aimerait un numéro 9 et forcément aussi remplacer Fabregas. Donc voilà, on sait que pour le moment, de ce qui se dit, c'est que Chelsea, entre Sarri, un peu comme Conte, hein, tu te rappelles, où il avait été aussi été viré pour ça.
Ouais.
Voilà, Sarri, c'est un peu compliqué aussi avec ses dirigeants, donc à voir. Mais Higuain, écoute, avec Milan, on en a parlé beaucoup, on en parle encore. Moi, je pense qu'Higuain a été... Quand il est arrivé cet été à Milan, Leonardo lui a dit, écoute, on te prend en prêt parce qu'on n'a pas le choix, donc un prêt de 18 millions, avec une option d'achat de 36, comme tu as dit, aux allures d'obligation. Voilà, c'est une obligation masquée, normalement. Et il a été garanti à Higuain qu'il allait être racheté, comme honnêtement, on pensait tous. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Ouais. Entre-temps, Leonardo a eu une déclaration où il disait, sans Ligue des Champions, Higuain, il sera pas racheté. Et à partir de là, les cartes ont un peu changé. C'est simple, voilà, les cartes ont changé sur la table. Higuain a été déçu de cette déclaration.
Sachant qu'il n'y avait pas eu urgence de révéler ça à la presse non plus.
Hein. Évidemment. Mais il était déçu, il pensait qu'il allait être racheté automatiquement dans tous les cas, et sinon c'est pas le cas. Du coup, il y a des déclarations, même Leonardo l'a attaqué il y a quelques jours en conférence de presse en disant que il devait se retrousser les manches, se bouger. Et là, on sentait que ça allait être compliqué, donc... De ce qui se dit à l'heure actuelle, c'est que Higuain, Gattuso l'a fait comprendre hier, c'est que Higuain a demandé à partir, que lui, Gattuso, essayait de le convaincre de rester, mais que c'était compliqué. Donc quand un joueur veut partir, généralement, il obtient ce qu'il veut. Moi, je pense que après l'affaire Bonucci, qui est reparti après un an, si tu te sépares d'Higuain au bout de 6 mois, tu prends un coup pour ton projet, tu prends un coup pour l'image du club. Beaucoup de
et puis un coût financier, parce que ça veut dire que sur 6 mois tu auras dépensé 18 millions d'euros de prêts
plus le salaire
plus 5 millions d'euros de salaire quasiment.
Ce serait quand même le prêt le plus cher de l'histoire, alors derrière il y a pas d'achat, donc ça serait complètement incompréhensible. Pour moi, Milan doit aller au bout. Ils ont dépensé une telle somme, ils vont au bout. Si Higuain, alors évidemment que Higuain a ses fautes, et je suis le premier à le reconnaître, il est même irritant dans son comportement, dans le fait de s'agacer avec ses coéquipiers, mais il savait où il mettait les pieds, c'est vrai, mais je pense pas qu'il s'attendait à autant de difficultés dans le jeu. Il a quelques occasions par-ci par-là, mais il s'attendait quand même à mieux. Il pensait qu'il allait avoir plus d'occasions, peut-être plus épanoui, et c'est vrai que je pense qu'il est assez déçu de ça. Mais maintenant, il s'est engagé. Milan a le droit aussi de faire respecter. Milan a tout en main. Il faut rappeler que Milan a tout en main. C'est-à-dire que si Chelsea et la Juve seront d'accord, sans l'accord de Milan, l'accord ne se fera pas entre la Juve et Chelsea. Parce que si Milan décide de garder Higuain en janvier, ils le garderont. Et s'ils décident de le racheter en juin, ils le feront. Donc tout dépend de Milan. Après, est-ce que tu dois garder Higuain s'il est mécontent? Ça, c'est un autre discours. Parce qu'en plus, lui, je pense que tu as un peu remarqué. C'est le genre de joueur qui n'arrive pas à le cacher.
Ouais.
Quand il n'est pas content, tu le vois. Même aujourd'hui, j'ai vu...
Comme beaucoup d'attaquants, les Dzeko, ouais. Ronaldo...
Oui, exactement. Ouais. J'ai vu les images de l'arrivée du Milan en Arabie Saoudite. Tu vois bien que Higuain est très... Tu vois, sur le visage, il est très sombre. Il était la tête sur le portable. Il était vraiment... il était visage fermé. Donc, Bon, voilà, on sait que Gattuso d'ailleurs est un peu trop bavard selon moi. Enfin, hier, il était un peu trop bavard en disant que, en sous-entendant clairement que Higuain allait partir. Voilà, c'est aussi le problème de Gattuso. Là, c'est un entraîneur franc. Il sait bien l'honnêteté, mais c'est vrai que des fois, il faut aussi te canaliser, pas dire des choses qui sont publiques. Et du coup, maintenant, forcément, tout le monde s'en empare et annonce qu'Higuain va partir. Donc, moi, je pense que Elliott, qui est quand même une propriété solide, quand tu vends ton top player au bout de 6 mois après Bonucci l'année dernière, ça fait quand même sacrément tâche, pour être un peu vulgarisé ça. Donc pour moi, Milan ne doit pas laisser partir. Après l'investissement qui a été fait, c'est pas possible. Ça serait un gros coup. Et encore une fois, qui tu prends pour le remplacer? Piontek.
On va en parler, oui. Il y a Piontek comme piste principale. Il y a aussi Morata. Alors Piontek, on estime, enfin beaucoup de médias italiens estiment que tous les grands clubs italiens seront intéressés par lui cet hiver ou cet été. Dans les pistes possibles, on a parlé de la Juve et on a parlé de la Roma, donc on parle de Milan. Pour la Roma, Monchi a clairement dit si c'est à 70 millions d'euros comme veut Preziosi, ça sera non, ça sera pas nous.
Évidemment.
En plus, en ajoutant un truc qu'on pense même nous, hein, puisqu'on en parlait avant d'enregistrer le podcast, c'est en gros il est très bon au Genoa, mais est-ce qu'il le serait à Chelsea ou dans un plus grand club, on ne sait pas encore.
On parle de 6 mois, on parle de 6 mois.
Exactement. On n'a pas la réponse encore à ça, donc ça peut aussi refroidir des clubs. Et donc c'est la même chose. Est-ce qu'il serait aussi bon au Milan qu'il l'est au Genoa, où l'équipe joue pour lui, etc. Où il y a un duo où il s'entend très bien avec Kwame, où ça marche très très bien pour les deux. Pas évident, donc et puis même chose, hein, je pense que Piatek ne bougera pas cet hiver, c'est trop complexe. Non. En fait, pour le faire cet hiver, il y a trop de choses en jeu, il y a le Genoa qui est mal classé aussi, enfin il y a trop d'éléments qui font que ça peut être compliqué de résoudre ça là en 2 semaines avant la fin du mercato.
Évidemment, mais pour revenir à Higuain, voilà, si tu t'en sépares en janvier, du coup tu fais quoi? Tu le remplaces?
T'es obligé de le remplacer.
Évidemment, mais si tu trouves pas imagine Piontek, t'arrives pas à le convaincre. Enfin,
l'autre Morata, piste principale, c'est Morata.
Ouais, et si t'arrives pas à boucler Morata, enfin, tu vois ce que je veux dire. Alors, ouais. Je lisais tout à l'heure en répondant aux questions qui ont été posées sur Twitter. Est-ce que si tu gardes évidemment Coutronné, par exemple, encore marqué un doublé hier, mais c'est impensable pour moi à l'heure actuelle de finir cette saison avec Coutronné unique numéro 9. Ouais. T'arriveras jamais en Ligue des Champions avec Coutronné. J'adore Coutronné et c'est un joueur en devenir. C'est un vrai buteur, mais c'est pas possible. Il est encore un peu tendre. D'ailleurs, on le voit souvent quand il démarre titulaire. C'est vrai que c'est encore un peu tendre pour viser la 4e place. Il lui faut encore du temps. Il faut qu'il s'aguerrisse. Et d'ailleurs, avec Higuain, moi, je pense qu'il formait un bon duo. Donc, moi, je pense qu'il faut que Milan tape du poing sur la table. J'ai eu des comparaisons sur Twitter qui sont pas mal, qui disaient, Milan n'est pas un hôtel une étoile où on accueille des joueurs 4 étoiles. Ils arrivent 6 mois, puis ils en ont marre et puis ils s'en vont, quoi. Non. Milan aussi, c'est droit. Ils peuvent taper du poing sur la table en disant non. Voilà, Higuain, tu vas rester, t'as signé, t'assumes, et puis voilà, si tu vas avec des champions, on te rachète. Après, voilà, je peux aussi défendre le joueur qui te dira, voilà, les cartes sur la table ont changé, il m'avait dit, on t'achètera en tous les cas, et entre temps, finalement, ils ont dit, ce sera conditionné avec des champions. Donc, lui aussi, je peux le comprendre, mais Milan n'est pas non plus, voilà. Après, franchement, si tu fais Bonucci, Higuain en un an, allez, on va dire un an, et les deux s'en vont au bout d'un an et 6 mois, moi je trouve que ça fait quand même sacrément tâche pour un club comme Milan, pour un club prestigieux comme Milan. Tu prends quand même un peu ton ego et le projet Elliott et même Leonardo, ils en prendraient un coup. Donc Milan doit se faire respecter et Higuain doit rester. Et il va falloir aussi que l'entraîneur se remette en cause et le fasse jouer. Il faut que lui aussi s'en retrousse les manches et puis arrête de se plaindre et commence à carburer. Donc si chacun met du sien, ça peut marcher, mais malheureusement à l'heure actuelle, je pense qu'on se rend quand même plus vers un départ à Chelsea. Donc on va suivre ça, mais c'est vrai que ça pourrait être le gros transfert du mercato,
ouais, du mercato
et même pas que italien, hein. C'est un gros transfert, je pense, des 4 grands championnats, hein. Ouais. Parce que même en Ligue 1, en Bundes et en Liga, je vois pas un transfert qui serait similaire, donc on va suivre ça.
Alors, autres joueurs qui peuvent bouger cet hiver, il y a Kwame, on en a parlé là, on a parlé donc de Piontek, qu'on voit pas spécialement bouger cet hiver. Même chose pour Kwame, on a un peu de mal aussi à le voir bouger. Disons que le Genoa serait 10e, bien au chaud et pas mal de points d'avance sur la zone de relégation. je pense qu'ils auraient pu vendre Kwame, là, sachant qu'ils ont que quelques points d'avance sur la zone de relégation. J'imagine mal qu'ils ont pris un entraîneur aussi qui est quand même ambitieux, hein, prendre Delhi. J'imagine mal accepter de voir un de ces deux de meilleurs joueurs partir. Donc voilà, Kwame, c'est le Napoli hein, qui est vraiment très intéressé. On l'imagine très bien dans cette équipe du Napoli, avec un attaquant un peu plus de, comme au Genoa avec Piontek devant, mais là ça pourrait être avec Milik. Ça sonnerait aussi peut-être du coup le glas de Insigne en deuxième attaquant, avec peut-être un retour sur le côté gauche où ça marchait pas mal. Mais encore une fois, hein, Preziosi, c'est pas simple. C'est 25 millions d'euros réclamés pour lui. Donc voilà, sachant que De Laurentiis avait été quand même très échaudé hein, par tous les transferts qu'il avait fait, les Pavoletti, tout à l'heure t'as parlé de Gabbiadini, je sais plus, il y en a d'autres comme ça, mais je les ai plus forcément en tête, des joueurs à entre 10 et 20, voire 25 millions d'euros, que Sarri ne faisait jamais jouer, donc il a toujours été un peu échaudé, maintenant maintenant il a pas spécialement envie de mettre des 25 millions d'euros pour des joueurs de rotation, donc... Ça sera aussi à suivre de ce côté-là. Et puis, je sais qu'il y a Dom Baldi qui m'a posé la question, qui m'a interpellé du coup sur Lozano, l'ailier mexicain du PSV, puisque on sait qu'il est suivi par le Napoli. Le PSV en demande minimum 30 millions d'euros, mais aimerait bien en tirer un peu plus. Alors, c'est un joueur évidemment qui est hyper intéressant, comme je suis beaucoup le championnat des Pays-Bas, parce que il a cette capacité à être imprévisible. Et donc ça, c'est aussi ce que beaucoup d'équipes recherchent. C'est un joueur vraiment qui est capable de dribbler dans le 1 contre 1, qui est assez costaud. Et aussi qui va vite, qui a toutes les qualités d'un ailier moderne. Alors c'est pas l'ailier puissant, qui a une énorme densité physique. C'est plutôt l'ailier virevoltant. Très bon dans le 1 contre 1, dribbleur, bon finisseur qui prend très bien les espaces, sans ballon, il a un travail qui est aussi assez intéressant. Il a que 23 ans, là il est clairement prêt à passer le cap d'un plus gros championnat. Le PSV va le vendre cette saison, c'est une quasi-certitude. Maintenant qu'il a fait ses classes aux Pays-Bas, il faut qu'il trouve un championnat plus compétitif et une équipe aussi où il va se mettre un petit peu en danger et où il peut progresser aussi. Donc à 30 millions d'euros, moi j'irai chercher évidemment Irving Lozano. Ça leur a pas mal réussi d'aller chercher Mertens à une époque où il était aussi très bon au PSV Eindhoven. Je continuerai sur cette filière-là avec Irving Lozano. Et puis puisque il y a une autre personne qui a rebondi sur le tweet de Don Baldi qui s'appelle je ne sais plus Thomas je crois. Thomas B et qui disait il faut prendre Bergwijn, l'autre ailier du coup du PSV, c'est visiblement des fans du PSV. Là c'est l'inverse, c'est un joueur très puissant, une grosse densité physique, une bonne frappe, bon aussi dans les 1 contre 1 mais pas virevoltant comme l'est Lozano. C'est moins cher aussi, c'est aux alentours de 20-25 millions d'euros. Donc c'est très très jeune aussi, hein. Bergwijn, je crois qu'il a 20 ans si je dis pas de bêtises, ou peut-être 21 ans, je suis en train de vérifier évidemment pendant que je parle, 21 ans.
Et quoi, les deux, tu prendrais qui?
Moi je prendrais plutôt Lozano, si j'avais les liquidités évidemment pour le prendre, parce que l'un sera sans doute 10-15 millions d'euros plus cher que l'autre. Ouais. Moi j'irais plutôt chercher Lozano, je pense que ça matcherait bien dans cette équipe du Napoli. Et puis il me restait qui dans ma petite liste d'attaquants qu'on avait noté? Ah oui, et puis on a eu une question en plus dessus, tu vois, sur Moise Kean. Puisque voilà, lui c'est difficile pour lui parce que il joue jamais ou presque. Il a joué hier en Coupe d'Italie, il a marqué d'ailleurs, mais sinon en championnat il joue jamais, il rentre de temps en temps en fin de match, et encore il y a un tel niveau offensif dans les lignes offensives de cette équipe, avec des Douglas Costa qui sont remplaçants, avec qu'est-ce qu'on a, des Bernardeschi, avec c'est très compliqué pour lui de se montrer. Il a un âge quand même où il faudrait qu'il joue, tout simplement, je pense.
Oui, parce que en plus de ce qui se racontait l'été dernier, c'est que la Juve voulait le garder jusqu'en janvier et après peut-être l'envoyer en prêt. À voir si la Juve va respecter sa parole entre guillemets. Mais c'est vrai que voilà, moi je pense que la meilleure solution pour Moskin, c'est qu'il parte en prêt. Je pense qu'il y a plusieurs clubs en Italie qui pourraient le prendre, même à l'étranger. Tu te rappelles, on a parlé aussi de Marseille.
Ouais.
C'était l'été dernier. Je pense que ce serait un joli coup pour un club de moyen de tableau, on va dire, mais au milieu de tableau.
Il faudra bien choisir la destination, hein, Guillaume, hein, parce que l'année dernière, il a été prêté à Vérone, à l'Hellas, qui était quasiment déjà dans la charrette pour descendre, et ça s'était pas super bien passé non plus. Donc,
tu vois, j'aurais aimé le voir. Alors, bon, il n'y a plus la place maintenant, mais tu vois, un club comme la Fiorentina, tu vois, ou la Samp. Tu vois,
est-ce qu'il n'y a pas trop de concurrence déjà, tu vois?
Ah, évidemment. Ouais, non, mais c'est ce que je te dis, sans la concurrence.
Ouais.
Je pense que tu vois, un club un peu comme ça, je pense que ça aurait été récent, ou même au Torino, tu vois, ça aurait été.
Tu sais où je le verrais bien, où il n'y a pas vraiment de concurrence, enfin, pas énormément de concurrence, c'est à Sassuolo.
Oui.
Parce qu'à Sassuolo, Babacar, c'est quand même pas dingue.
Boateng est pas neuf.
Boateng est pas un neuf en soi, même s'il a joué plusieurs fois neuf depuis le début de la saison. Et puis derrière, Matri est absolument catastrophique depuis le début de la saison.
Matri ressemble quand même plus à un ancien joueur qu'un joueur actuel. Même quand il rentre en jeu, je sais pas si t'as vu.
Ouais.
C'est deux, trois entrées, mais c'est quand même.
C'est très, très lent.
Ah ouais.
Très lourd. Enfin, bref.
Il est en retraite avant l'heure, hein.
Ouais,
il fait vraiment ses derniers tours. Tel un changeur des années 80 qui finit ses meilleures années, mais c'est vrai que c'est terrible. Hein. C'est vrai que moi aussi, oui, c'est une bonne idée. Moi, je suis d'accord. Ouais.
Et on sait qu'il y a quand même des bonnes relations entre Sassuolo et la Juve, et donc ça serait, ça pourrait être intéressant.
C'est vrai que ça pourrait être intéressant.
Mais en tout cas, faut que, s'il part en prêt, faut qu'il joue et pas dans une équipe qui lutte contre la relégation, puisqu'on sait que dans ces cas-là, du jour au lendemain, tu peux ne plus être titulaire, du jour au lendemain, t'as les ultras qui débarquent et qui mettent un cirque pas possible, une pression pas possible, et pour un jeune joueur, c'est pas forcément simple à gérer. Donc, non, vraiment, s'il part en prêt, il faut vraiment très bien choisir la destination. Je crois qu'on a fait le tour, Guillaume.
Oui.
On va passer aux questions maintenant. Alors, on élimine les questions sur Gattuso, pourquoi Milan ne l'a pas encore viré.
Ouais, c'est parlé.
Voilà, on en a assez parlé. Je te propose de remonter un petit peu les... Donc il y avait Moiskin, doit-il quitter la Juve, et donc ça c'était Elvin, on vient d'en parler. Lozano, Don Baldi, on vient d'en parler. Il y avait Sylvain, je suppose, Chris X. Le décrassage côté Milan avance-t-il? Halilovic, Montolivo, Bertolacci, Borini.
Écoute, Halilovic devrait signer à Beşiktaş. C'est très avancé, ça devrait être très rapidement bouclé, je pense, dans la semaine. Montolivo est en fin de contrat, il partira en juin. Bertolacci partira lui aussi l'été prochain, à voir si le Genoa va tenter le coup dès janvier, mais pour le moment ça me paraît assez froid. Et le dernier c'était Borini. Alors Borini est annoncé en Chine, une piste qui s'est évidemment refroidie depuis, donc pour le moment Borini reste, à voir jusqu'à quand, mais voilà, il est encore rentré hier, donc Gattuso compte aussi sur lui, donc à voir si voudra s'en séparer. Mais bon, moi je pense que si tu offres on va dire une dizaine de millions pour Borini, ce serait déjà pas mal. Au vu des comptes que tu dois faire, je pense que Milan accepterait, mais voilà, c'est quatre joueurs, on va dire, qui pourraient rapidement partir à Milan. Et de toute façon, à Milan, t'as beaucoup de joueurs en fin de contrat, donc même Zapata est en fin de contrat, mais Zapata est bon, donc il pourrait prolonger. Mais en fin de contrat aussi, Montolivo, il y en a quand même plusieurs, donc, le dégraissage va se faire aussi tout seul.
Alors, il y a Brogdon qui nous demandait des news de Tonali, donc là, on a expliqué que ça se passerait cet été et clairement pas cet hiver. J'ai cru entendre qu'il aimait beaucoup l'AC Milan.
La question est,
est-ce que ce Milan-là peut lui permettre de progresser aussi rapidement? Est-ce que ce Milan-là aura l'argent pour le faire aussi? Parce que ça va pas être un petit transfert. Donc voilà, que pensez-vous de l'ambiance dans les stades? Eh bien écoute, si tu parles de ce qui s'est passé lors d'Inter Naples et puis hier en Coupe d'Italie lors de Lazio Novara et lors de Bologne Juve, c'est absolument exécrable. Mais c'est clair que ça s'arrange pas, et les deux matchs hier de Coupe d'Italie n'ont clairement pas arrangé les choses, cher Adrien.
J'avais une question à Jérémy, on a répondu qu'ils enquêtent départ d'Iwane. Est-il plus judicieux d'installer Coutroné comme le titulaire définitif ou aller chercher un joueur comme Piontek? Moi, j'opterais par la deuxième option. Je pense qu'on a répondu.
La question Coutroné, est-ce qu'il y aura les moyens d'aller chercher ce genre de joueur? C'est pas forcément simple. Rafa Tovelo demande Belotti vers la Roma, est-ce que c'est possible? Questionné par la Gazzetta, Monchi a dit j'aime beaucoup ce joueur. On l'avait questionné sur Ziyech et sur Belotti. Il a expliqué j'aime beaucoup ces joueurs. Donc écoute, ce qui est sûr, c'est que ce sera pas 100 millions d'euros comme l'espérait Kero l'été dernier ou même l'été d'avant, je sais plus. Non, c'était l'été dernier. les 100 millions d'euros de Belotti. Non, c'était l'été d'avant, je crois.
Ah, c'est l'été d'avant, ouais, c'est l'été d'avant, exact.
Donc, il y a 18 mois, il espérait 100 millions d'euros. Maintenant, on serait plus aux alentours de peut-être 30-40 que de 100 millions d'euros. Qui fait le recrutement au Milan entre Gazidis, Leonardo, Maldini?
Bah, Leonardo est le grand patron et Maldini, pour le moment, suit. Plus Leonardo et Gazidis, c'est généralement le dernier mot. Voilà.
Ensuite, notre fidèle Norcia, la Roma, objectif milieu défensif, défenseur central et remplaçant à Dzeko. Sur quel profil travaille Monchi? Mancini, l'Atalanta en DC, Belotti, Piatek, qui au milieu? Bon, on a déjà beaucoup parlé de la Roma. Qui au milieu? Il y a Bennacer d'Empoli, on en a parlé. Tout ce qui est Barella, maintenant ça paraît impossible. Tonali peut-être pour cet été. Et puis bah, Mancini, de l'Atalanta, on l'a évoqué, Belotti, on vient de le faire, Piontek, bah écoute, 70 millions d'euros, il a dit que ce serait non.
Moi, j'avais une question de Touma, @anoutouma, qui disait, pensez-vous que si Alan est vendu plus de 80 millions d'euros, Dombali sera disponible pour l'amener lui-même à l'aéroport?
Si Alan, c'est ça la question?
Oui, Alan, ouais.
Écoute, je pense que Dombaldi sera en position fœtale sur son lit en train de pleurer et avec un paquet de Kleenex à côté pour sécher ses larmes.
Et d'ailleurs, il a répondu, hein. Il a dit « je l'emmène sur mon dos à cloche-pied ».
Ah bon, écoute, je pense qu'il fait le malin caché derrière son écran, mais en vrai, il pleurerait.
J'avais une question aussi, tiens, je vais te la poser.
Dis-moi.
Abdou Taifor, ouais. Qui dit « Barella Chelsea, c'est quoi le problème ?» À cause de Barrel ou de Chelsea, SVP.
Écoute, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Le fait est que c'est que les médias anglais sont beaucoup avancés.
Oui.
Voilà, on peut... Toi, tu disais par exemple que Di Marzio n'avait pas confirmé. Enfin, en tout cas, cet état d'avancement-là. Donc, on verra ce qui se passe. On sait que Chelsea veut absolument un milieu de terrain. Qu'il y a Paredes aussi qui est visé. Donc, a priori, il n'y a pas de problème dans les négociations. C'est juste que. Les médias anglais sont beaucoup avancés et qu'en Italie on est beaucoup plus prudent. Donc, ouais. Donc voilà, il y avait aussi Denis qui disait, je pense que c'est un supporter de Nantes puisque FCN 95 a priori, ça matche bien avec le FC Nantes et la question porte sur Gigi qui est prêté par le FC Nantes au Torino. Je crois qu'il y a une option d'achat qui ne doit pas être une obligation d'achat. Le Torino va-t-il conserver Gigi qui fait une bonne saison? Bah écoute, a priori oui, puisque je crois que l'option elle est. Il faudrait que tu meubles un instant, cher Guillaume.
Non, mais je me disais que Gigi, en plus, ta chanson du moment avec Nakamura. Oh Gigi, pitié. Je t'as catin Gigi.
Oh pitié, Guillaume, pas toi.
Si.
Tu n'as pas le droit de faire ce genre.
Je suis désolé. Bah, en fait, quand tu m'as dit Gigi, j'ai tout de suite pensé à Judge. Je suis désolé, mais
écoute, tu peux le dire. Tu peux être désolé.
Moi, grand fan de Michel Sardou, voilà ma triste fin. Voilà ma triste fin. La décadence d'un homme résumée en une chanson et deux paroles. C'est terrible. Et voilà. Est-ce que j'ai assez meublé?
Eh bien, pas du tout. Puisque j'ai lu le communiqué du Torino à l'époque, qui n'annonçait pas
le montant.
Ouais, le montant, ni quoi que ce soit. J'ai regardé sur Di Marzio, mais il avait simplement repris le communiqué. Donc écoute, a priori, il me semblait avoir lu que l'option d'achat était aux alentours de 3 millions d'euros. Donc il n'y aurait pas de frein particulier. Il rentre tout à fait dans la grille salariale. Il a joué, je suis en train de regarder. Il en est à 11 matchs. Donc c'est pas non plus un indiscutable de la défense comme peut l'être un Nkoulou. Maintenant, dans une défense qui est assez limitée, moi je trouve un Izzo, je trouve ça assez limité. Moretti fait bien ses 37 ans. Et puis derrière, dans l'axe, il n'y a pas grand chose. De Silvestri, c'est le côté. Anseldi, c'est de côté. Aina, de prêté par Chelsea, c'est un joueur de côté. Donc, écoute, j'ai envie de te dire que, au vu de ses prestations et ses 11 titularisations et son faible coût, il pourrait tout à fait être recruté. Est-ce que tu as d'autres questions de ton côté? Moi, je n'en vois pas.
Écoute, j'ai regardé, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'avais Milan Arabic Chanel qui demandait « Do you think there will be a trio meeting in Jeddah? Milan Youth Higuain to decide the future of Higuain. »
Alors déjà, ce qu'on peut noter, c'est ton superbe accent anglais. C'est un petit cadeau que tu nous fais pour bien démarrer
c'est
2019.
C'est pour ça qu'il est présent en anglais, voilà.
En tout cas, je crois que c'est Di Matteo qui avait parlé de ça, hein, qui aurait sans doute une réunion Milan Juve.
Évidemment qu'ils vont aborder les sujets. Ils seront, on va dire, dans la même pièce, entre guillemets. Donc, évidemment qu'ils vont aborder les sujets. Il y aura forcément une rencontre. Et je pense qu'ils vont faire un point sur la situation. Après, voilà, on va pas se répéter. Mais Milan a les cartes en main. Donc, c'est Milan qui décide. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais on se dirige quand même plus vers un départ à l'heure actuelle, en ce dimanche 13 janvier 2018. 19, pardon.
Oui, c'est mieux. Écoute, je crois qu'on a fait le tour, Guillaume.
Oui, on a fait le tour.
On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, reprise enfin.
Oui, oui.
De la Serie A et du football qui compte, hein, et non pas la Coupe d'Italie qui ne compte que quand tu l'as gagnée. Hein,
exactement. Ou quand tu vas en finale.
Ou quand tu vas en finale. Voilà, ça c'est valable vraiment pour tous les clubs. On fait le programme de la prochaine journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hein.
J'ai eu peur de te prendre en traître en te le demandant.
Mais pas
du tout. Je vois que tu es prêt. Alors vas-y. Je me mets assis et j'attends.
Alors, ouverture de la journée, samedi 19 janvier, Roma-Torino à 15h.
15h, ouais. La Roma joue souvent à 15h. Hein. Samedi, on sent que c'est quand même votre... C'est important. Le 15h samedi, c'est la Roma.
Voilà, c'est ça. Udinese-Parme, 18h. Ouais. Ensuite, on a un très beau match. Inter Sassuolo à 20h30.
Voilà. Inter samedi soir, oui.
Ouais, et puis Sassuolo qui recommence fort, hein, avec Naples en Coupe d'Italie et l'Inter en championnat. Ouais. Le match pour le marché chinois du dimanche 20 janvier à 12h30. Frosinone-Atalanta. Alors là, je pense que ça va faire un pic. Un pic magnifique dans toute l'Asie du Sud-Est.
Tout ça pour voir Douvan finir au Tuanjin Quanjan, voilà.
Bien sûr, exactement. 15h, le multiplex avec deux rencontres, et ça c'est magnifique, un multiplex de deux rencontres. Spal Bologne et Fiorentina-Sampdoria. Ceci dit, Fiorentina-Sampdoria, c'est un match à voir.
Oui, mais bon.
18h, Guillaume, arrête, tu es en train de déprimer. Guillaume. 18h, Cagliari-Empoli. 20h30, Naples-Lazio. Donc déjà un choc pour repartir sur cette saison. Et puis bon, lundi, des matchs qui ont été repoussés, avancés. Genoa-Milan à 15h. Donc c'est magnifique, un match à 15h le lundi. Je pense que le stade sera plein.
Ah bah, alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils ne viendraient pas. Mais de toute façon, ils ne seraient pas venus.
Oui, c'est ça.
Parce que il faut croire que... Alors, faut dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui a pris la décision de sécurité, du coup, qui a décalé le match, enfin, qui a avancé le match à 15h. Mais du coup, la préfecture demande à ce qu'il soit remis à 21h. Donc pour le moment c'est à 15h, mais c'est pas impossible que ça bouge encore. Mais c'est vrai que lundi 15h, je pense qu'on est quand même là, on passe un cap. Hein. Faut croire que tous les Italiens sont chômeurs, et tous les gens qui le font sont chômeurs, n'ont pas de boulot. Du coup bah voilà. Mais lundi 15h, je pense que c'est une première.
Et Juve Chievo à 20h30, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs avec jours et horaires différents. Voilà, c'est absolument magnifique.
Ouais. Mon coup de gueule était justifié, non ?
Ton coup de gueule était justifié et je soutiens ton coup de gueule de la dernière fois sur l'organisation des matchs et des journées en Italie. C'est absolument scandaleux. Voilà, on va terminer le podcast sur cette parole forte et engagée, bien entendu. Guillaume, on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer la 20e journée de Serie A. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple, sur Google Podcast et un peu partout où vous voulez.
Noter.
Oui, de noter évidemment, et 5 étoiles sur iTunes pour faire connaître le podcast au maximum de personnes possibles. Et puis d'ici là, amusez-vous avec le mercato, prenez ça au sérieux, mais pas trop non plus. Hein, ne vous embrouillez pas pour du mercato, de toute façon vous aurez un effectif au 31 janvier. Et il vous faudra le supporter. Et on se dit donc à la semaine prochaine et bonne semaine à tout le monde.
Salut à tous.